ici, cette usine, ça a été des gens qui ont travaillé, c'était l'usine Tira. Et plus tard, peut-être qu'on dira, ici, ça a été aussi le théâtre Buissonnier.
Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dag et je vous souhaite la bienvenue. Dans cet épisode, je vous emmène dans les coulisses d'un lieu à nul autre pareil, un endroit consacré au spectacle vivant qui écrit sa propre histoire sur un site lui-même chargé d'autres histoires. Direction Le Chantier à Nogent-le-Rotrou, où le théâtre Buissonnier propose une offre culturelle pour le plus grand nombre, y compris les tout-petits. Spectacles, festivals, ateliers autour du théâtre, de la chanson, du cirque, avec toujours un moment de convivialité. Gilles Richard et Rose Richard Brûlé ont eu la gentillesse de me recevoir au chantier pour me raconter cet endroit. Bonne écoute.
Alors, cet endroit, ça dépend... À quelle époque on le regarde? Si on le regarde à sa construction, c'est un morceau d'une usine de chapeaux qui s'appelait Tira et qui embauchait à l'époque presque 1000 personnes entre les deux guerres. C'était une entreprise très importante. À l'époque suivante, elle a été un peu laissée de côté, puis c'est devenu aussi un bout d'une industrie. Et après, c'est devenu un atelier d'ébénisterie. Et puis après, nous sommes arrivés ici, dans ce lieu qui était quand même en état de délabrement avancé. C'était ce qu'on appelle maintenant une friche. Voilà. Et depuis ce lieu-là, tu me diras si je me trompe, mais ça doit faire 15 ans qu'on, celui-là précisément, qu'on travaille à le restaurer, à le remodeler, à en faire ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un théâtre. Et il vient maintenant, il a sa majorité, on lui a adjoint des loges, on lui a adjoint des lieux de répétition, et donc nous sommes au chantier, auquel on a collé après lui une esplanade en bois qui surplombe la rivière et qui sert de guinguette l'été.
C'est un lieu de vie déjà, un lieu de fabrique de spectacles. On accueille des équipes qui viennent créer ici, qui viennent répéter des spectacles. C'est un lieu aussi où nous accueillons des ateliers de pratique artistique, que ce soit des enfants, des jeunes, des adultes qui viennent pratiquer le chant, le théâtre ou d'autres disciplines qui s'y rapprochent. Et c'est aussi un lieu de diffusion où on accueille des spectacles. Donc avec des rendez-vous réguliers, et on accueille aussi ponctuellement d'autres associations qui veulent y pratiquer une activité qui se rapproche du spectacle. Moi, je suis née ici, à Nogent-le-Rotrou, à peu près à 50 mètres de là où je me trouve maintenant. J'ai vécu toute mon enfance dans le Perche. Et puis, je suis partie faire des études et je suis revenue dans le Perche. Voilà. Donc moi, je suis vraiment la locale de l'étape. Par contre, Gilles n'est pas né à Nogent-le-Rotrou, hélas.
Non, nul n'est parfait. Donc, moi, je suis un vrai petit parigot. J'ai quelques lettres de noblesse puisque ma grand-mère était concierge à Paris, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Et suite à un événement familial, à l'âge de 24 ans, alors que mes parents avaient acheté une maison dans la région, j'ai été amené à rester ici, parce qu'il y a eu un accident dans la famille et il fallait un peu gérer une situation qui était difficile. Et mon frère et moi, qui n'étions pas du tout destinés, mon frère qui est médecin, n'est pas destiné à rester ici, mais on a été amené à rester, et on s'en porte bien. Enfin, voilà. On a appris à aimer cette région, à la rencontrer doucement. C'est pas une région. Moi, j'avais vécu un peu dans le Limousin. Le Limousin, une région, on se tape très vite sur l'épaule, on se tutoie, on se dit des blagoches, on boit des pastis. En fait, quand on n'est jamais vraiment de là-bas, quoi. C'est quand même, c'est bien plus difficile. Alors qu'ici, les gens vous font pas rentrer du premier coup chez eux, mais ils vous adoptent et après, on devient un peu percheron. Je suis un petit parisien ici. Je me fais embêter un peu des fois. Mais je pense que j'ai amené aussi à des jeunes percherons des choses, peut-être d'un autre, oui, d'un autre environnement, et c'est pas si mal que ça. Le mélange est intéressant. Moi, ce que j'ai aimé dans cette région, c'est que je trouve que c'est une région multiple, c'est-à-dire que je disais, au début que j'étais là, je disais aux gens, venez, moi ça me rappelle les images pédagogiques que que l'enseignant accrochait au tableau. C'était la vraie campagne, quoi. Il y a un peu de vallon, il y avait des maisons, il y avait des vaches, des chevaux, il y avait des sentiers, il y avait des haies, enfin, je parle des années quand je suis arrivé la première fois en 70, et je trouvais ça super. J'avais le bourdon quand je quittais des fois, quand mes parents venaient, que j'étais plus jeune le week-end, et aujourd'hui nos gens le retrouvent. Alors plus particulièrement, il répond aussi, je trouve qu'il a une dimension, moi, qui me convient formidablement. C'est-à-dire que c'est une ville où vous avez quand même des services publics, où vous avez de la culture, vous avez du sport, il y a une piscine, là maintenant on fait des sentiers. On comprend où on vit, ça nous appartient, même si on n'y a pas participé, ça nous arrive très vite, on peut très vite profiter des progrès d'une de cette petite ville. Et je dirais qu'en fin de compte, souvent je dis ça, c'est peut-être ce qui correspond à un quartier. Elle a cette dimension où, si je fais une bêtise sur la route, aujourd'hui, quelqu'un dit, oh, je t'ai vu, t'as volé un feu rouge, comme quand j'étais enfant, disant, dis donc, l'autre jour, t'as pas dit bonjour quand t'es rentré dans la boutique. Enfin, il y a quelque chose où on existe, quoi. On peut vivre de cet endroit-là, et du coup, même si moi je me sens parisien, je me sens bien dans cette communauté-là. Enfin, voilà.
À une époque, on a beaucoup tourné avec les Buissonniers, et donc on a vu quand même, on a bien sillonné les routes de France, les paysages, tout ça. Mais j'étais toujours très contente de revenir ici. Je crois que d'abord c'est les collines, le fait que ce soit très vallonné, très vert, boisé, beaucoup de rivières, voilà. Et puis qu'il y ait des animaux, parce que je trouve que, bon, après c'est peut-être mes racines vraiment rurales qui ressortent, mais c'est une campagne que je trouve très, très chouette, et qui est pratique dans le sens aussi où c'est quand même connecté rapidement à une grande ville. Donc ça veut dire que si on veut faire quelque chose de particulier, voir une expo à Paris, on fait 1h30 de train, on y est, donc c'est quand même très pratique, voilà. Mais moi j'adore la campagne.
Un jour, une association nogentaise est venue me chercher en me disant « On sait que vous aimez le théâtre, vous avez fait du théâtre. » J'avais fait de la danse à Nogent, j'avais fait des choses qui étaient un peu surprenantes. Mais ils m'ont dit on a quelqu'un qui part, qui devait jouer un rôle dans une pièce qui avait été écrite par un monsieur qui s'appelle Tropina, qui habitait Nogent-le-Rotrou, qui avait été proviseur d'un principal de collège, qui était un monsieur, pour la petite histoire, qui avait été très proche de Jean Villard et qui l'avait accompagné d'ailleurs, mais qui, parce qu'il était un vrai militant communiste, épris de culture populaire et de laïcité, et qui a choisi de retourner vers l'école pour faire un travail de fond tel que les militants sont capables de le faire. Et c'est ces gens-là qui sont venus me chercher. Alors je suis parti sur une pièce en plus qui était rigolote, ça s'appelait Les Racines de l'érable, et ce monsieur Tropina, André, avait écrit une pièce appelée Racine de l'Érable qui se voulait de raconter l'épopée des percherons au XVIe siècle qui partent au Canada, au Québec. Et donc, une fois que j'ai remis mon pied sur un plateau, là, ça m'a avalé, quoi, ça m'a absorbé. Donc de là, c'est passé tout un tas d'étapes où j'habitais à l'époque dans le village où Rose vivait. J'ai monté un club de théâtre en dehors de temps scolaire. Et puis, je suis tombé sur un groupe d'enfants dans ces années-là qui étaient épris, je pense, d'aventure. Mais la vie rurale, la ruralité, la vie à Auton permettait pas forcément de partir très loin. Et je crois qu'ils se sont aperçus, comme ça, de manière un peu inconsciente, mais que le théâtre était une aventure. Et qu'on pouvait partir jouer des choses complètement différentes. Enfin, ils ont vraiment découvert le théâtre comme un vraiment, ouais, ce qu'on appelait les terrains d'aventure dans les cités dans les années 70. Et eux, leur terrain d'aventure, c'était le théâtre, quoi. Et c'est eux qui ont fait le théâtre après. Le théâtre Buissonnier est devenu parce que c'est eux qui l'ont fait. Ils se sont construits un théâtre. Moi, je les ai poussés à faire des choses. Enfin, mutuellement, ce groupe de jeunes et moi, on a échangé. C'est devenu un truc très dynamique. Et puis, les gens de Auton ont fini par comprendre que c'était important. Ils nous ont aidés. Et après, nos gens nous ont attirés vers eux. On a eu un premier... on devait arriver dans un premier lieu. On l'a pas eu. Après, on a été mis dans le beffroi de l'usine. Et ça, on arrive là-dedans dans les années 80, et depuis, on n'est jamais parti de cette usine. On a fait 4 endroits différents. On a été transportés de lieu en lieu pour des raisons de sécurité. La tempête de 99 où tout s'est envolé, il a fallu nous enlever. Après, on a eu un théâtre qui a brûlé en 2004, un incendie terrible. Et puis après, on a construit un lieu ambulant. Et puis après, et puis voilà. Et aujourd'hui, on est là. On se promène dans ce lieu, on le connaît parfaitement, on connaît son histoire, et ça nous nourrit aussi énormément d'être dans un lieu qui a été habité par un nombre de gens incroyable, puisque 1000 personnes, vous vous rendez compte, sur 40 ans, le nombre de personnes qui sont passées dans ces locaux. Et ça nous amuse d'être à l'abri de la plus vieille église de Jean-le-Retrault, qui se trouve ici derrière vous. Et puis, de l'autre côté, en face, il y a le beffroi, qui est aussi haut, mais qui était, en fin de compte, le vase d'expansion de l'usine. Et quand on a décidé d'abandonner les grands lieux qu'on avait et de construire ça, je crois qu'on avait fait le tour de la question. Et ça nous permettait peut-être de reconstituer un lieu pour une centaine de personnes, adapté aussi à la vie d'une communauté d'artistes qui peuvent vivre sur le Perche, à nos gens le retrouve, qui peuvent venir tous les matins. C'est leur maison et c'est celle du public qui est en train de se l'approprier. Et ce lieu-là, c'est ça, je crois.
Quand on a créé la compagnie professionnelle à Nogent, on avait aussi une troupe en fait qui produisait ces spectacles et qui a beaucoup tourné dans toute la France. Voilà. Donc on a bien sillonné pendant presque 20 ans, on va dire. Et puis voilà, plein d'événements ont fait qu'à un moment donné, c'était difficile de tout mener de front. Et puis il y avait aussi l'envie de développer un projet. De revenir sur un lieu, parce qu'on avait eu aussi un lieu qui avait beaucoup fonctionné, qui s'appelait La Verrière, avec un accident de parcours, puisque La Verrière a brûlé, donc on avait tout perdu, voilà. Et du coup, on a toujours associé aussi notre présence ici avec l'organisation aussi d'événements, de festivals, tout ça. Donc on avait commencé à mettre des choses en place. Et puis, à un moment donné, on a eu envie de structurer davantage les choses. Et donc, j'ai créé le festival À Portée de Voix, qui est un festival consacré à la chanson. Et pour ce faire, je pouvais pas continuer à et tourner les spectacles, et animer les ateliers ici, dans les écoles, et à programmer des spectacles. Enfin voilà, c'était juste pas possible, quoi.
En fin de compte, quand nous, on a commencé à tourner, on s'est très vite aperçu que On était genre, on voulait faire plein de choses. Et on s'est trouvé que la chanson nous allait bien. Et on a fait ce qu'on appelle, nous, un travail de comédien-chanteur. C'est-à-dire qu'on a, on n'a jamais abordé la chanson, par le biais de la musique ou de la manière dont elle avait été interprétée. On a retravaillé sur les textes et on s'est dit, qu'est-ce que ça nous raconte? Et très vite, on s'est aperçu, en travaillant vraiment, en parlant beaucoup, que d'ailleurs chaque chanson, il y avait une histoire importante, peut-être une vie, peut-être un moment de vie, peut-être un film, peut-être un livre, mais c'était déjà peut-être le synopsis, le début de quelque chose. Et du coup, on s'est passionné pour la chanson. Et quand on revenait sur la chanson, on reprenait bien sûr la musique, on respectait ça, mais complètement changé dans les rythmiques, dans la manière de les interpréter, de les arrêter, d'avoir des personnages qui intervenaient. Enfin, on a beaucoup travaillé ça. Et ça qui a fait quand même que toi, Rose, t'as eu un amour pour la chanson qui fait que t'as quand même beaucoup poussé pour que y ait un développement autour de la chanson.
Voilà. Et sans doute aussi parce que la chanson, c'est peut-être une discipline artistique qui est peut-être plus accessible que le théâtre, proprement parlé. Alors, je parle pas de la danse, parce que ça, c'est pire, ou la musique savante, ou je sais pas quoi. En fait, à travers la chanson, ça touche tout le monde, en fait, la chanson. Ça nous a, enfin, pour moi, je trouve que ça nous accompagne toute la vie, c'est-à-dire de la naissance jusqu'aux moments les plus difficiles, et qui peut être partagé aussi par tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière, c'est-à-dire qu'on soit tout petit, qu'on soit très très vieux dans un EHPAD, qu'on soit ça nous accompagne toute la vie, et en fait du coup ça rend le lieu très accessible, et ça c'était important aussi pour nous de proposer, d'avoir une proposition qui permette de rassembler en fait du public, de rassembler des gens. Et puis, d'y associer aussi, ça c'est plus la touche vraiment buissonnier, à chaque fois des moments de convivialité autour. Et c'est une façon de permettre de dire, bah, en fait, on peut aller à c'est peut-être de la culture, mais en tout cas, c'est une façon d'attraper les gens aussi, des fois. Et surtout, les faire revenir après. Parce que une fois, c'est facile, c'est la deuxième fois, des fois, qui est plus difficile. Donc, la chanson permet ça. Et puis, ça permet vraiment de toucher tous les publics, ce qui était quand même important, surtout qu'ici, on est quand même aussi dans un lieu qui est mis à disposition par une ville. Donc, c'est aussi important que ça touche aussi tous les publics. Voilà.
Vraiment, toute la démarche et tout le travail qui a été fait sur la chanson, c'est vraiment Rose qui l'a menée. Mais c'est aussi notre attachement au développement des artistes qui sont en train d'être laminés par ce que devient la chanson. La chanson devient un business énorme mené par quelques grosses sociétés de production. Nous, on connaît des artistes, des gens qui font un travail formidable, qui peuvent même plus vivre de leur métier, et que ça, c'est un constat qui fait mal au cœur, qui est difficile. Et là aussi, à partir du moment où vous êtes dans une petite ville, que vous êtes sur vraiment la notion d'une équipe de gens qui s'est dit, nous, on va travailler au milieu sur un territoire et on va vivre ici. On partira en tournée, on ira, mais on appartiendra à un lieu. On est attaché à ne pas laisser tout partir à volo, comme ça se fait aujourd'hui, que ce soit les services publics ou autre chose. La culture, il y a un enjeu énorme derrière la culture. Et cet attachement, au moins, peut-être, c'est effectivement cette forme plus simple d'approche qu'est la chanson. Ça, c'est aussi un peu ça, quand même.
2025, ce sera le 10e anniversaire du festival à portée de voix, au mois de juin, voilà. Donc ce festival existe depuis effectivement 2015, avec une année forcément d'arrêt au moment du Covid. Donc ça sera comme d'habitude en partenariat avec, en gros, avec les mêmes structures que les autres années. les assos nogentaises, les écoles, si on peut le faire. Ça se déroulera bien sûr et aux Gauchetières, et à la crèche, et à la maison de retraite, enfin voilà. L'idée, c'est de mettre un accent aussi sur deux choses. Le cœur éphémère du festival, qui reste pour moi un moment fort, parce qu'en fait, c'est les gens en fait qui font ce cœur éphémère. Donc, c'était la marque de fabrique du festival. C'était de proposer un rendez-vous où les gens pouvaient venir chanter. Et ça fonctionne plutôt bien, parce que les gens viennent, voilà. Il y a même des gens, des fois, qui viennent de loin, donc qui s'organisent, tout ça. Et puis, cette année, il y aura un accent aussi qui sera mis avec toute la belle équipe, en fait. C'est toutes les bénévoles, toutes ces belles personnes, comme on les appelle, qui nous accompagnent toute l'année, et pas forcément qu'au moment du festival, et qui permettent que la fête soit plus belle, en fait, en gros, parce que sans les bénévoles, on aurait beaucoup, beaucoup de mal, finalement, à faire tout ce qu'on fait. Parce qu'on n'est pas... même si on est quand même soutenu, on n'a pas les moyens qu'ont les structures, on va dire, institutionnelles. Et donc, les festivals et les petites structures comme la nôtre ont vraiment besoin d'engagement de citoyens qui, effectivement, décident de consacrer du temps pour faire de la cuisine, pour faire de l'accueil, voilà. Et puis, un temps aussi où finalement échanger tout ça, enfin ils sont plutôt, enfin on voit des gens assez heureux en fait de le faire, et ça c'est plutôt bien parce que tout ça en fait on fait pour que les gens finalement soient heureux, en fait ça, faut que ça ait du sens, et le bénévolat ça fait partie de ça aussi quoi. Donc toute l'année ils sont là, donc je pense qu'on essaiera de faire un temps un peu plus marqué pour eux aussi, voilà.
Une anecdote, on avait donc un lieu démontable, ambulant, qui s'appelait la baraque, c'était 3 smerbanks sur la route, 70 tonnes de matériel, autoportant, sans pain, sans foncé, dans les sols, enfin voilà, et qui était un vrai lieu de 600 mètres carrés, enfin un truc incroyable, qu'on était les seuls à avoir dans le monde, soyons très clairs. Et il se trouve qu'on a eu l'idée... d'emmener ce lieu à Avignon. Et il faut savoir que jamais un chapiteau n'est monté dans Avignon. Et nous, on a eu une idée, c'était de l'emmener, parce que nous n'avons besoin de rien d'autre que de le poser, comme on poserait une soucoupe volante qui va se poser. Et on avait réussi à rentrer en contact pour monter un projet avec la faculté de mathématiques d'Avignon, qui a un parc extraordinaire, et... visiblement, le directeur était d'accord pour nous recevoir et qu'on mette en place ce projet. Donc, on a été plusieurs fois à Avignon, puis on a fini par être reçu par les responsables de l'université et entre autres par le responsable de la communication et de la culture de la faculté d'Avignon. Et nous rentrons dans le bureau et ce monsieur rentre, un monsieur plus jeune que moi. Et il dit « Gilles ». Et il me regarde effaré, je me dis « Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ce monsieur nous raconte que c'est un petit Nogentais. Et qu'il dit, à un directeur de la fac, il dit « Voyez, je vous jure que c'est vrai. » Il dit « Voyez, la culture, c'est eux. » Et il revendiquait le fait que son approche culturelle, c'est qu'il nous avait vu chanter en rue, faire des choses qui le surprenaient, qui l'étonnaient, et que ça lui venait le goût d'une certaine curiosité à aller voir quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas été voir. Il a vu ça, entre autres, dans les cités des Gauchetières. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est une super récompense, qu'on se dit quand même, là, on a fait quelque chose. Mais quand je dis ça, c'est pour venir au deuxième point que je voulais soulever. C'est que oui, on a fait ça pour le public, avec le public. Oui, on a montré que des artistes peuvent se mettre sur un territoire, vivre de leur métier, et en même temps devenir vraiment des acteurs aussi dans leur quotidien, là où ils vivent. Oui, on a emmené une ville dans un projet comme ça, mais là où on n'a pas réussi, me semble-t-il encore aujourd'hui, c'est les moyens de la pérennisation, c'est-à-dire que le conventionnement, ce qui fait qu'on reconnaît l'importance de ce que nous avons fait, on n'a pas gagné ça. Et ça veut dire aujourd'hui, on doit se dire, si jamais nous, on arrête, il y a beaucoup de chances pour que ça s'arrête. Et ça, c'est comment on sort de cet engrenage insupportable sur le fait que la culture ne serait que le fait de quelqu'un ou de quelques-unes ou de quelques-uns qui ont la force, l'encouragement, la conscience, la volonté de faire les choses, et après, pouf, ça tombe. C'est comme si on laissait jamais trace de quelque chose, et en tout cas, d'avoir construit quelque chose qui pourrait perdurer au-delà de notre éphémère subsistance. Et ça, c'est moi, ça me, aujourd'hui, ça nous inquiète beaucoup.
Le truc qui m'a le plus ému, c'est, alors ça remonte, hein, en 94, on avait monté un spectacle dans le cadre de la commémoration de la libération de la ville de Jean-le-Retrou. Et à l'époque, dans les spectateurs, il y avait plusieurs dames, puisque c'était surtout des dames qui restaient, qui avaient été dans des camps de concentration, et qui sont venues vers nous, en pleurant, en nous remerciant et en nous disant, vous pouvez pas savoir comment ça nous a touchés, et qui ont signé sur le livre d'or avec le numéro de matricule. Et je trouvais que c'était le truc le plus incroyable qui puisse arriver, parce que j'ai forcément pas connu tout ça, mais que ces personnes-là nous témoignent toute leur émotion ce jour-là, c'était très beau, quoi. Voilà. Et donc je pense que ça montre aussi que des fois, le spectacle vivant, il fait passer des choses autres, en fait. Il n'y a pas que les mots, il y a aussi ce qu'on ressent, en fait. Et ça, c'est difficilement descriptible, en fait, pour les gens, quoi. Et la chanson, le spectacle permet des moments comme ça qui sont hors du temps, en fait, qui sont éphémères, parce que ça ne se reproduira plus jamais. Et c'est tellement éphémère qu'en plus, dans la petite histoire, ce livre d'or a brûlé avec l'incendie, donc ça ne reste plus qu'un souvenir, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est des petites choses comme ça. Enfin, des petites choses, des grandes choses.
Le théâtre, c'est somme toute qu'un endroit qui réunit des gens. Chez les Grecs, l'agora, ça permettait de se réunir. Il y avait la représentation, et ce qui était important, c'était pas la représentation. C'est ce qui se disait de la représentation. Ce que philosophiquement, politiquement, sociologiquement, ça amenait de confrontations, d'idées, quoi. Et donc, notre agora, nous, elle est adaptée au public, aux gens de nos gens. Et ça leur appartient. Comme les percherons sont somme toute très accueillants, et ben tous les gens qui arrivent à nos gens, ils sont très vite bien accueillis ici, et les gens sont très contents. Moi, des fois, j'ai l'impression que les gens ils disent aux Parisiens qui arrivent, ou des gens qui arrivent, vous arrivant, plus en la sécurité civile, donc il y a quand même un renouvellement d'une partie de la population. Mais quand ils disent aux gens, mais venez, on a l'impression qu'ils disent, mais venez, venez chez nous quand même, venez, on a un truc, venez donc voir ce qui se passe, venez voir.
Pas si le rapport à la culture a changé, mais par contre, il y a quand même une nouvelle population qui est arrivée dans le Perche, qui à une époque peut-être était moins impliquée, ou moi je ne me rendais pas compte qu'elle était autant impliquée, mais finalement je vois qu'elle s'implique quand même beaucoup sur le territoire, des gens qui viennent effectivement, qui ont des maisons, qui ont des résidences secondaires, mais qui aussi développent des projets, il y a beaucoup dans l'Orne, entre autres. Et ça, je trouve ça super, en fait. Et je trouve, moi, que tous ces nouveaux arrivants, c'est une chance, en fait. C'est une chance parce que ce sont des gens aussi qui ont des exigences saines, dans le sens où ils veulent bien manger, par exemple. Donc ça oblige aussi, ça permet qu'il y ait des producteurs qui puissent vivre l'année, parce qu'il y a effectivement des projets comme le Chardon, par exemple, le magasin de producteurs, il ne vit pas que avec les Parisiens, il vit aussi avec des gens de nos gens de retrouve, mais s'il n'y avait que les gens de nos gens de retrouve, il aurait du mal quand même. Donc en fait, et culturellement, je trouve que ça apporte des choses, parce que je trouve qu'il n'y avait pas autant de propositions culturelles il y a 20 ans. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas autant de festivals, il n'y avait pas autant de choses.
Oui. Bah. Moi, j'ai quand même l'impression que... nous, en arrivant à Nogent-le-Rotrou, on était dans un mouvement qui était écrit. Enfin, on a parlé de André Tropina tout à l'heure, de le théâtre populaire, de la laïcité. Donc, on s'est situé là-dedans. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens ne comprennent pas cette appartenance, ils la voient pas forcément. Donc c'est comme si nous on réinventait quelque chose. Alors ça c'est un premier aspect de, à mon avis du changement. Le deuxième aspect qui est quand même encourageant, c'est que j'ai l'impression que dans les écoles, dans des associations, pour la dégauchière, dans des regroupements, il y a le besoin culturel, il persiste. En tout cas, il y a des gens qui plantent le truc, le bâton de la culture, et qui essayent de continuer à le faire vivre. C'est eux, en fin de compte, dont on a énormément besoin. Et nous, on peut répondre comme ça à leur demande, on peut répondre à un besoin. Et par contre, le troisième aspect, c'est qu'on ne peut pas lutter. Et ça, on le constate, on ne peut pas lutter contre le mouvement, les mouvements des réseaux sociaux, d'Internet. Et déjà, quand on dit ça, on passe pour un vieux con, parce qu'on a un mec, il faut qu'il vive de son temps. Oui, peut-être. Mais ça influe tellement sur le comportement, la compréhension des choses, la perception de ce qu'est la culture. Moi, j'ai l'impression que nos enfants, les générations, sont en grand danger, oui, en grand, grand danger. Et peut-être que le théâtre, modestement, en restant comme ça, grâce à tous ces gens qui tiennent le maintien des choses, peut-être qu'on a un genre de c'est pas un contre-pouvoir, hein. On n'a pas les moyens, mais c'est une résistance. C'est une forme de résistance. On est arrivé ici en étant des acteurs de développement culturel et on est devenu des résistants culturels. C'est-à-dire qu'on a quand même changé de statut, quand même.
Une sentinelle.
Et une sentinelle, oui, nous sommes des sentinelles. Oui, ouais, tout à fait, tu as raison. Moi, dans mon histoire, j'arrivais pas à trouver l'espace où je pouvais être heureux, en fait. L'espace n'était jamais assez grand. Il me fallait un grand, grand espace. C'est pour ça que j'ai pris le plus petit qui existe, un plateau de théâtre. Et parce que l'espace, c'est pas un problème de dimensionnement, c'est un problème de possibilité, de moyens qu'on donne, quoi. Et moi, enfant, j'avais envie de raconter plein de choses, et je comprenais les gens, je voyais qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, tout ça, j'avais vécu une expérience culturelle avec une professeure de musique au collège. Et elle avait vu que j'étais pas un garçon comme les autres, elle m'emmenait vers un plateau de théâtre, et je me disais, mais c'est là que je veux vivre, quoi. C'est quand même incroyable, un plateau de théâtre. J'avais envie d'y retourner tous les jours, voilà. Et donc, quand j'ai eu un grand moment où il a fallu que je rencontre des métiers, du travail, travailler physiquement avec ses mains, c'est dur, c'est compliqué, on perd des fois le contact avec notre capacité à apprécier des choses, on perd la délicatesse, des fois c'est dur, voilà. Et moi, quand j'ai vu le truc s'ouvrir, par hasard, quand il me cherchait pour reprendre le rôle et revenir vers ça, j'ai été avalé. Enfin, je me suis fait avaler avec grand plaisir, voilà. Et là, tout s'est rouvert. Et j'ai compris, ce que je n'ai pas compris étant enfant, que sur un plateau de théâtre, on pouvait revisiter le monde à toutes les époques. On pouvait jouer n'importe quel rôle, n'importe quelle chose, et comprendre ce qu'on parlait de l'agora, et comprendre.
Alors moi, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, quand il a proposé l'atelier théâtre, moi j'étais au collège à Autant-du-Perche. Moi, je venais d'un milieu, d'un monde paysan, dans lequel l'accès à la culture était réduit à zéro. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'avais une grande appétence en fait pour tout ça. Il y a eu ce déclic-là, ça a été ça. C'était de dire effectivement, c'était une brèche en fait, dans laquelle beaucoup de choses étaient possibles en fait. Et moi je me suis engouffrée à fond dans le truc quoi. Non mais c'est vrai, dans l'idée de faire du théâtre et dans... Au début c'était pas du tout, moi j'ai pas rêvé quand j'étais petite d'être comédienne ni chanteuse, c'était pas du tout ça mon projet. Et ça l'est devenu après parce que ça, c'était un univers dans lequel c'était quand même formidable cette vie-là. Donc voilà, et puis après, bah ouais ça avale dans le sens où la façon dont nous on le fait en tout cas, et ce projet d'ancrage dans une ville... Bah, moi, je le relie toujours au monde. Alors, ça le fait sourire, mais au monde paysan, parce qu'en fait, quand il faut faire les choses, il faut les faire. Il y a pas, je peux pas, j'ai piscine. Non, en fait, quand il y a un spectacle, il faut être prêt le tel jour à telle heure et que toutes les équipes, du début jusqu'à la fin, ça fonctionne et tout le monde soit prêt, quoi.
Plus on avance dans cette construction d'un projet culturel. Effectivement, au début pas très conscient, et puis après, qui, je pense qu'on peut vraiment rajouter au terme qu'on nous donne, c'est plus qu'acteur ou artiste, enfin ton caractère, ou metteur en scène dans mon cas, mais c'est, on est des militants, on milite pour quelque chose, et voilà, et je crois que par une forme, par une éducation, il y a un intérêt commun là-dedans. C'est pas un intérêt personnel. C'est pour ça que c'est un peu bizarre aussi notre histoire, parce que les artistes sont souvent considérés comme des gens un peu égocentrés. Et je crois que nous, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans parce que c'est l'espace de jeu qui nous intéresse et de ce qu'on peut y faire et l'intérêt que les autres pourraient en avoir. Et qu'on a bien sûr envie qu'on vienne nous voir quand on joue. On a envie. Nous, on dit d'abord qu'on convoque les gens. On les convoque. Voilà, pour voir quelque chose, parce que inviter, ça serait déjà dire qu'ils viennent chez nous et nous on a envie qu'ils viennent chez eux, donc qu'ils sont convoqués chez eux. Voilà, et donc fort de ça, c'est la fin de la structure de cette histoire. Il y a des gens qui l'ont fait, on a bâti, il y a des moyens, il y a des gens, il y a un projet, il y a de l'avenir. Comment nous donner les moyens de la pérennisation. Voilà. Si on pouvait nous donner quelque chose, ça serait nous garantir que ce qu'on a fait, ça perdurera. Voilà.
Alors, ici, cette usine, ça a été des gens qui ont travaillé, c'était l'usine Tirard. Et plus tard, peut-être qu'on dira, ici, ça a été aussi le théâtre Buissonnier. Et voilà, pendant qu'on est passé, on a laissé une trace, j'espère que ce sera ça. Pas forcément, voilà, une trace collective. Et surtout, des moments de vie en fait où les gens ont passé des bons moments ici, ils ont vu des choses qui les ont touchés, qui les ont bouleversés. Il y en a qui se sont rencontrés ici, donc c'est quand même super. Il y en a qui se sont mariés ici, dans le sens où vraiment ils se sont rencontrés, donc c'était chouette. Et de se dire que si ça peut, bah voilà, effectivement, si on peut transmettre un jour ce chantier ou ce sera chouette, voilà, et que ça puisse perdurer après quoi.
Sur les projets, les enjeux, on est tous d'accord et on travaille tous dans la même direction. Sauf que Marie a pris plutôt la voie, elle, de la petite enfance, de la toute petite enfance. Et nous, les voies de plutôt autour de la chanson. Voilà. Donc peut-être qu'on n'a pas assez parlé de ça et pas assez dit que si on est encore ensemble, tous les trois, c'est parce que... bien qu'on puisse être en désaccord sur des choses par moment, dans l'organisation, dans des choix artistiques, dans une programmation, dans une organisation, ce qu'on a essayé de dire pendant tout ce temps qu'on a passé avec vous, c'est que notre militantisme attaché à un développement personnel, mais et également sur un intérêt général et un intérêt commun, ça c'est quelque chose qui est qui est très fort pour tous les trois.
Alors, il y a un auteur qu'on adore ici, qui est quand même un membre fondateur, quand même invisible, mais qui est là tout le temps, c'est Prévert. Reggiani a beaucoup chanté Prévert. Donc, Reggiani a dit un texte qui dit « Il faut vivre d'amour, d'amitié, de défaite, donner à perte d'âme, éclater de passion, pour que l'on puisse écrire à la fin de la fête quelque chose a changé pendant que nous passions. »
Oh, c'est beau.
C'est pour l'amour, pas pour la gloire.
C'est la fin de cet épisode. Pour en savoir plus sur la programmation du Théâtre Buissonnier, rendez-vous sur leur site théâtrebuissonnier.org ou suivez leur page Facebook Buissonnier et compagnie. Si vous aimez Perchissime, criez-le sur tous les toits et suivez son actualité sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci pour votre écoute et à très bientôt.